France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Et je le disais, question du soir en direct des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et une thématique cette année, vous le savez, pour ces rendez-vous, la France, point d'interrogation. Alors nous avons pris le parti dans question du soir d'aborder ce thème au prisme des ennemis de la France. Comment la France s'est-elle également construite en façonnant une image de ses ennemis? Et pour mener ce travail, on va s'intéresser à deux périodes distinctes, les deux guerres mondiales, première et seconde, grâce à une invitée que je suis ravi de rencontrer, Annette Becker. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Vous travaillez entre autres sur les deux guerres mondiales, en particulier sur les violences de masse contre les civils, leur mémoire et leurs oublis. Et vous vous appuyez particulièrement sur les sources imagées. On va en parler. Merci beaucoup Annette Becker d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Alors pourquoi la France et ses ennemis? Pourquoi la France et ses adversaires? Pour comprendre qui nous sommes fondamentalement, rire ensemble, dites-vous, c'est rire contre à deux niveaux. Pour mieux intégrer les siens, pluriel d'affection, pour mieux exclure l'autre, singulier péjoratif, l'ennemi n'est-il pas le parangon de la non-appartenance absolue? Qu'est-ce que cela signifie, Annette Becker, cette citation?
Alors j'ai écrit tout ça à propos de la Première Guerre mondiale, parce que dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est beaucoup plus compliqué.
Mais comment sont
parlées, justement ? Dans la Première Guerre mondiale, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a très peu de différences culturelles entre un Français, un Anglais, un Allemand. Je dirais même qu'il y en aurait plus de différences avec un Russe. Or, les Français et les Anglais sont alliés des Russes, et la guerre est une guerre à outrance, il faut le dire, dès l'origine, contre les Allemands. Et donc, on va créer un portrait de l'Allemand absolument dans une haine totale, et dans une haine qui va avec l'idée que ces peuples sont différents, mais ils sont pas seulement différents parce que c'est des nations différentes, mais ils sont différents parce qu'ils ont une autre façon de voir la vie, la culture, la civilisation, et surtout, ils sont d'une race différente. Et on arrive à créer une image de l'autre absolument horrifique, et c'est pour cela que, dès l'origine, les Allemands sont appelés les barbares. Mais ce n'était pas complètement le hasard.
Pour faire un pas en arrière, Annette Becker, est-ce que vous diriez que cette représentation de l'ennemi est encore plus violente, plus virulente qu'elle ne l'était dans d'autres guerres passées, et notamment peut-être parce que la violence de la Première Guerre mondiale était peut-être d'une certaine manière inédite également?
Ce qui était inédit, c'était les violences dès l'origine, ce qu'on a appelé les atrocités allemandes. Le fait qu'ils ont traversé la Belgique avec un certain nombre d'atrocités réelles, des viols, des otages, des boucliers humains, et puis des grandes destructions, comme la bibliothèque de Louvain. Et puis quand ils sont arrivés en France, dans la France du Nord et de l'Est, même chose. Et en plus, avec cette invention, parce que c'est pas eux seuls qui ont touché à la cathédrale de Reims, mais qu'ils étaient ceux qui détruisaient la cathédrale de Reims. Et là, on arrive au cœur du problème. Le problème est à la fois leur cruauté, leur brutalité, ce sont des guerriers sans foi les lois, mais en plus, ils touchent à l'endroit où l'on sacrait les rois de France. Pensez à Marc Bloch qui disait, au même moment, pendant la Première Guerre mondiale, les Français qui ne comprennent pas le sacre de Reims ne sont pas des bons Français. Eh bien, à l'envers, les Allemands étaient ceux qui osaient toucher à la cathédrale de Reims. Et donc, on a créé un Allemand qui n'a rien à voir avec l'Allemand réel, avec toute une discussion sur le gothique en particulier, les Allemands étant des goths, mais grâce aux Français, on avait construit les cathédrales gothiques parce que ces goths n'étaient même pas capables de reconnaître leur propre culture. qui est délirant.
On va revenir à Ned Becker sur la façon dont les Français ont, durant cette Première Guerre mondiale, barbarisé l'ennemi, barbarisé l'allemand. Mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur un fait historique, puisqu'on parle en ce moment de panthéonisation, notamment à travers la panthéonisation hier de Robert Badinter. Vous écrivez dans une conférence que vous avez donnée hier au rendez-vous de l'histoire de Blois, ce n'est pas un hasard si en 1915, on transfère les restes de Rouget de Lisle au Panthéon. Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes, dit la Marseillaise. Alors pourquoi justement cette concomitance entre la barbarisation de l'allemand et cette panthéonisation de Rouget de Lisle en 1915?
Eh bien, pour la même raison que ce que je viens de dire, l'allemand est le miroir de tout ce qu'on n'est pas. Et il faut dire aussi que l'Allemagne est un empire, que la France est une république, et que la république offre à ses citoyens de la défendre. Et la Marseillaise, l'hymne national, qui date de la Révolution française, bien sûr, vient montrer cela. Ceux qui venaient égorger les fils et les compagnes, on ne sait pas qui c'est à ce moment-là, mais on voit bien que les égorgeurs sont les Allemands. Et d'ailleurs, on les appelle plus les Allemands. On les appelle systématiquement les Boches. Et le mot Boche, on s'est interrogé très longtemps pour savoir d'où ça venait. Il semble que ça vient de la guerre de 70 et que...
Contre la Prusse et les Allemands.
Voilà. Donc. Contre les Prussiens, mais pas tous les Allemands à l'époque. Et que c'était, on disait les Alboches. Mais on n'a jamais très bien compris ce que veut dire Boche. Des gens pensent que ça vient de Caboche, mais les linguistes refusent cela. Mais en tout cas, ça a été coupé en Boche. Et pratiquement, vous ne trouvez pas de texte après le début de la guerre, après les atrocités allemandes du début de la guerre, où il y a allemand. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que même des gens qui sont très calmes face à la guerre, je pense à Gide, tout à fait au début de la guerre, qui dans son journal tient à écrire allemand, je pense à Romain Rolland, qui est au-dessus de la mêlée, qui est parti en Suisse, très rapidement, après les atrocités allemandes et après leur mythification, parce que c'est ça qui est le plus incroyable, il y a eu de vraies atrocités, mais il y a eu l'idée qu'il coupait les mains des enfants. Et quelqu'un comme Gide voit un enfant réfugié du Nord à Paris qui a les mains emmaillotées parce qu'il s'est blessé, sans doute, et il est persuadé que tout ce qu'il prenait pour des mythes, et on est vers la fin de l'année 14, en décembre 14, eh bien, c'est la réalité. Et à partir de là, on a une des plus grandes manipulations de l'opinion qu'on puisse connaître au XXe siècle, qui est celle du passage à un ennemi réel, parce qu'ils sont réellement des ennemis, bien sûr, à un ennemi complètement fantasmé, mais particulièrement dans les caricatures.
J'allais venir justement, il faut nous dire un mot, Annette Becker. On va revenir sur cette notion de manipulation de l'opinion. Mais il faut nous dire justement comment cette barbarisation a eu lieu. Quel médium a été employé en particulier pour l'accélérer, cette barbarisation? Et vous faites un travail, je dois dire, impressionnant pour montrer comment les caricatures ont peut-être été le fer de lance de ce travail de barbarisation de l'ennemi français.
Absolument, les caricatures et puis les œuvres d'art en général.
Par les caricatures.
Mais les caricatures en particulier, vous n'avez plus guère de dessins sur la guerre qui ne représentent pas la cathédrale de Reims en ruine complète, alors que les historiens ont très bien montré que, en effet, elle avait reçu quelques obus, mais pas volontairement. Et que par ailleurs, certains de ces obus étaient aussi français, parce que avant que le front ne soit établi, on cherche. Et évidemment, c'est aussi pour ça que énormément d'églises sont détruites, beaucoup plus petites bien sûr que les grandes cathédrales, parce que d'une part, on pense qu'elles servent de tours de guet, et donc on veut les abattre. ou c'est parce qu'elles dépassent et évidemment elles reçoivent les obus.
Je me permets de vous couper, mais c'est aussi caricaturé, intégré dans ces caricatures des églises. On intègre également beaucoup de prêtres. C'est montré aussi que l'allemand, l'ennemi, commet ses méfaits
volontairement,
mais surtout vu aussi par Dieu. C'est Dieu qui sera juge de ce qui se passe aujourd'hui.
Bien sûr. Alors, tout cela est la représentation de ce qu'on appelle la fureur totanica. Et cette fureur est vue comme une fureur protestante, en plus. Parce que nos bonnes églises catholiques sont en train d'être détruites par les luthériens. Et comme en même temps c'est un grand anniversaire de Luther pendant la Grande Guerre, je ne sais plus quel anniversaire de sa naissance, pardon. Alors évidemment les Allemands font beaucoup de choses autour de Luther et les pauvres protestants français disent bah non, on n'a rien à voir avec tout ça. Nous on est calvinistes. Alors il reste quelques luthériens français qui expliquent que non, ils ont complètement rompu avec les Allemands. Donc ces gens qui ressemblent beaucoup, évidemment, deviennent non seulement d'une cruauté incroyable, mais ils deviennent les représentants du diable. Et j'ai montré hier un tableau qui se trouve au musée de Grenoble, qui est dû à Otto Frist, qui s'appelle La Guerre, 1915. Le tableau est immense, il est grand comme le tableau, et il est coupé réellement en deux. D'un côté, tout est noir, et c'est l'enfer, et c'est le côté allemand, avec des grands canons Krupp, bien sûr, qui sont dressés contre la cathédrale de Reims. Et du côté gauche, du côté du paradis, c'est la France. Mais c'est une France dont le paradis est menacé, parce que le noir essaye de s'enfoncer dans ce paradis. Alors, il y a des images de soldats français qui ont l'air extrêmement généreux, qui prennent dans leurs bras, justement, leurs fils et leurs compagnes, avant que les Allemands ne viennent leur arracher. Et ce tableau est absolument incroyable. Vous pouvez le regarder sur Internet et le trouver. Et au centre, il y a Guillaume II, qui est en train d'enchaîner le diable pour que le diable soit de son côté. Mais c'est absolument incroyable. Et c'est un grand artiste. Alors, il finira très mal, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, il sera des artistes qui vont se promener en Allemagne. Mais c'est un artiste très connu, très célèbre. Et il y en a un deuxième qui fait un peu la même chose, c'est Dufy. Dufy, en 1915, qui dessine un magnifique coq tricolore qui a dans ses serres. Enfin, il n'a pas de serres, lui, mais c'est l'aigle qu'il a réussi à abattre. Et ça s'appelle « La fin de la Grande Guerre ». On est en 1915. Alors, ça nous dit deux choses. D'une part, qu'en 1915, on appelait déjà la guerre de 14, comme on disait, la Grande Guerre, qu'on avait déjà compris qu'il y avait quelque chose d'un phénomène incroyable dans cette guerre. Et deuxièmement, en disant la fin de la Grande Guerre, c'est qu'il espère bien que ça sera vite fini. Et cette fin, il la voit au moment où ceux qui ont brûlé Jeanne d'Arc, et donc cette image est absolument incroyable, il y a cet énorme coq, l'aigle qui est abattu, et sur le côté, il y a la cathédrale de Reims en train de brûler. Et dans la fumée de la cathédrale de Reims, c'est Jeanne d'Arc qui est au-dessus. Donc évidemment, tout le monde sait bien que ce n'est pas les Allemands qui ont brûlé Jeanne d'Arc, hein, ni les Anglais d'ailleurs quelque part, mais ce n'est pas le propos. Mais Dufy, ce grand artiste, rentre dans cette propagande incroyable, et le pire, c'est que ça marche.
Il faut nous dire un mot, Annette Becker, vous l'avez dit rapidement, c'est la façon dont on barbarise l'ennemi, c'est une chose. Mais comment le français, les Français sont-ils représentés par les artistes? En creux, quelle identité cela dessine-t-il de la France de la Première Guerre mondiale? Comment représentons les Français?
Alors, les Français, pendant la guerre, se représentent comme résolus. C'est-à-dire, ils sont capable de tenir. Mais très rapidement, la guerre va se transformer parce que toutes ces caricatures sont des caricatures de 14-15. Et la guerre ne s'arrêtant pas, Et la guerre étant de plus en plus industrielle et de plus en plus terrible.
Et violente.
Et violente, bien sûr. Pensez que 15, par exemple, juste après que Dufy fasse ce tableau incroyable, eh bien, arrivent les premières attaques de gaz. Et donc, le gaz qui, on le sait bien aujourd'hui, a été un petit tueur par rapport aux obus, mais bien que petit tueur, a provoqué une terreur incroyable et une véritable coupure dans la guerre. On peut maintenant tuer les gens d'une autre façon, on peut les attaquer d'une autre façon, de façon sournoise. Et par, bien évidemment, qui a employé les gaz tout seul, soi-disant, mais en tout cas les premiers, c'était les Allemands. Donc les Allemands étaient non seulement les assassins, mais ils étaient les empoisonneurs. Et on voit à ce moment-là beaucoup de caricatures arriver avec des Allemands un peu lourdeaux qui portent des grandes bonbonnes de gaz. Par rapport à l'horreur que représente la guerre des gaz, soit avec des bonbonnes, soit très rapidement avec des obus, c'est là que la citation que vous donniez tout à l'heure, comment peut-on rire d'une chose pareille? Et ça, c'est la Première Guerre mondiale. Dans la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est plus possible.
On va venir à la Seconde Guerre mondiale, mais un instant avant cela... La façon dont le génocide arménien également a été instrumentalisé par la caricature, par la propagande française, et la façon dont les Allemands ont été associés à ce génocide, il faut nous en dire un mot également, Annette
Becker. Alors, c'est pas seulement les Français, hein. C'est à peu près tous les alliés ont fait la même chose. Parmi les dessins les plus incroyables, il y a en particulier beaucoup de dessins britanniques et italiens et même américains qui sont pas encore en guerre mais qui rentrent dans la même chose. Au moment de ce qu'on appelle alors en temps réel l'annihilation ou l'extermination des Arméniens, on c'est 15. Donc c'est juste au moment où toutes les commissions d'enquête sur les atrocités de 14 dont je vous parlais à l'instant publient leur rapport. Et immédiatement, on associe ceux qui sont les ennemis principaux, c'est-à-dire les Allemands, aux Turcs, qui ne sont vus que comme des ennemis secondaires, voire on représente souvent le sultan comme un peu débile, avec des béquilles, se cassant la figure, et c'est les Allemands qui manipulent. Et on voit à ce moment-là des lacs, mais des mers de sang, où Guillaume II et le Crown Prince sont en train de s'agiter. Et de temps en temps, il y a avec eux le sultan, mais pas toujours. Et il y a une caricature qui est particulièrement atroce. On voit écrit « Arménia dans le sang ». Et cette caricature montre tous les trois, le Crown Prince, Guillaume II et le sultan, en train s'échapper de ce lac de sang. Et on voit au loin les Arméniens, on voit des espèces de foules. Et ça fait une grande croix rouge dans le sang. Alors pourquoi cela? Eh bien parce que on n'a aucune compassion pour les Arméniens. C'est quand même incroyable.
Ils sont totalement instrumentalisés.
Ils sont totalement instrumentalisés. Ils sont instrumentalisés pour prouver que on avait bien raison de les voir comme des barbares, parce que nous, ils avaient touché à la cathédrale de Reims.
Il faut rappeler le christianisme des Arméniens, par ailleurs.
Et par ailleurs, évidemment, les Arméniens sont chrétiens. Mais cela n'empêche pas, et je voudrais revenir au racisme dont j'ai parlé au début, cela n'empêche pas qu'ils disent quand même, donc ils le disent, les Allemands sont derrière l'extermination des Arméniens, et ce sont des gens sanguinaires, mais quand même, ils sont chrétiens, bien qu'ils soient protestants et que ce ne soit pas le bon christianisme. Et à ce moment-là, c'est le moment où arrive le racisme. Et c'est donc très, très intéressant de voir cela. Et en particulier, on utilise, et je pense que ça aurait été intéressant pour les débatteurs précédents, on utilise les troupes noires qui sont soit dans l'armée française, soit dans l'armée britannique, alors que les Allemands n'ont pas utilisé de troupes coloniales. Ils les ont utilisées en Afrique, bien sûr, au Rwanda en particulier, mais ils ne les ont pas utilisées sur les champs de bataille européens, alors que les Français et les Britanniques, évidemment, énormément.
Je fais un bond dans l'histoire de quelques décennies, Annette Becker, parce que le temps file malheureusement. Je voudrais qu'on évoque quand même rapidement la façon dont ces Allemands, dont le régime nazi surtout, est caricaturé, représenté même plutôt au cours de la Seconde Guerre mondiale en France. Est-ce que, au fond, c'est plus facile, plus simple de dépeindre l'ennemi lorsque lui-ci incarne un temps le mal qu'il était ?
Je dirais oui, oui et non. Oui et non, parce que c'est plus facile de se moquer que de montrer l'horreur absolue. Et je dirais qu'on peut en parler. Et c'est peut-être pour ça que la littérature de la Seconde Guerre mondiale est tellement passionnante. La caricature, c'est difficile. Et par ailleurs, on ne peut pas tellement caricaturer quand on est occupé, puisqu'il s'agit de la France. Alors, si on veut trouver des caricatures intéressantes sur la Deuxième Guerre mondiale, il faut aller en Angleterre ou il faut aller aux États-Unis. Et pour vous montrer qu'on peut quand même rire des choses les plus épouvantables, alors c'est pas l'histoire de France, je suis désolée, mais c'est vraiment très, très passionnant. Il y a des caricatures à la fin de 44 aux États-Unis où c'est une caricaturiste qui a bien compris que les gens ne comprennent rien au camp. Ils savent qu'il y a des camps, mais ils savent pas exactement ce que c'est. Et c'est 44, hein. La guerre est en train d'être gagnée par les Américains, mais elle n'est pas terminée. Et on voit un jeune couple qui a mis ses enfants dans un parc et le parc est en barbelé. Et ils disent aux visiteurs qui viennent voir les enfants dans le parc, il faut qu'ils soient bien installés pour le monde dans lequel nous vivons. Vous voyez, c'est absolument incroyable. Et cela montre que quand on est loin des réalités, on perd pied avec sa propre humanité. Comment on peut rire de choses pareilles ? Et ce qui s'est passé dans la Première Guerre se passe, mais dans des pays qui sont loin. Les pays occupés, c'est pas possible. Les pays, de toute façon, quand ils sont occupés, ben il y a pas de presse. Donc il peut y avoir quelques caricatures, tout à fait à la fin de la guerre, dans des journaux résistants, qui peuvent être des caricatures anti-bourreaux, mais on peut pas arriver à avoir ce niveau de lecture, cet humour noir qui n'est même pas de l'humour noir, qui montre un refus de comprendre en face ce que c'est une atrocité, ce que c'est une guerre, ce que c'est un massacre. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très frappant. Et je crois que si on s'arrête au texte, on n'y arrive pas. Il faut voir les images pour comprendre ça.
D'un mot, Annette Becker, alors la France n'a peut-être plus aujourd'hui d'ennemis directs, strictement directs. Et pourtant, est-ce que cette figuration d'un ennemi indirect, lointain, permet aujourd'hui de construire une forme d'identité nationale française, de participer à construire la France contemporaine. Je pense notamment peut-être à la façon dont on peut parfois représenter et les Russes et leur régime, ce qui sont deux choses différentes.
Oui, mais d'une part, aujourd'hui, le grand âge de la caricature est plus ou moins révolu. Je dirais que moi, j'admire beaucoup les dessinateurs de Charlie Hebdo qui continuent aujourd'hui à essayer de raison garder justement et à faire de l'humour avec tout. Et chez eux, on peut trouver cet esprit-là. Mais on peut le trouver justement en réfléchissant à ce que sont les souffrances. Et peut-être parce qu'ils ont beaucoup souffert, du moins leurs prédécesseurs. Ce qui est frappant dans les caricatures de la Grande Guerre, des caricatures. Je pense à des horreurs sur l'Arménie, mais des horreurs sur les Tutsis du Rwanda, avant et pendant le génocide, c'est que c'est ce refus complet de l'autre. Et ce refus complet de l'autre, on le dessine, et le résultat, c'est qu'on est prêt à l'exterminer.
Merci beaucoup, Annette Becker. C'était passionnant, justement, de retracer une part du XXe siècle français à l'aune de ses catures, de ses représentations de l'ennemi. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Ouest Nanterre. La défense que vous travaillez notamment sur les deux guerres mondiales, en particulier les violences de masse contre les civils, leur mémoire et leurs oublis. Merci beaucoup aussi à ce public nombreux des rendez-vous de l'histoire de Blois. Merci au rendez-vous de l'histoire de Blois de nous avoir accueillis. Et puis un immense merci, comme chaque semaine, à la formidable équipe de questions du soir. Stéphanie Villeneuve, Bertie Bourdon, Diane Devancet, Rodi Eken, Candice Bergeron, Antoine Héral, Juliette Mouelli, Cléa Ralassine à la réalisation, Benjamin Troncin ce soir à la technique. Merci à eux parce qu'ils font cette émission avec moi chaque jour et chaque semaine. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis depuis le rendez-vous de l'histoire de Blois.